Ok, super.
Dis-moi.
Alors, donc je vais vous faire une présentation sur la gamification, ce que c'est, à la fois au niveau de l'utilisation de la gamification dans des applications B2C qu'on peut retrouver sur tous les stores d'applications, et aussi avec un petit focus à la fin sur la gamification en entreprise, avec un focus notamment sur la gamification des forces de vente. Ça sera un exemple d'expérience qu'on peut mettre en place avec la gamification. Alors, la gamification, c'est engager et motiver avec les mécaniques du jeu. Ça, c'est une définition plutôt classique. Et nous, ce qu'on pense en tout cas chez Objo, et puis c'est aussi ma définition personnelle, c'est que la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques du jeu pour aider un individu à atteindre son objectif. Je pense que c'est assez important d'avoir cet objectif bien en tête, que on est là, non pas comme le disait Charlotte, pour faire du divertissement, mais vraiment avec un objectif qui est extra-ludique et qui est un peu pratique et pragmatique. On veut vraiment coacher un utilisateur pour l'aider, pour l'accompagner et lui apporter de la valeur. Alors, ça, c'est de manière très schématique ce qu'on essaye de faire avec la gamification, c'est d'aider un utilisateur à parcourir ce chemin vers l'objectif. Et pour ça, on va utiliser les techniques de jeu. Donc, un utilisateur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un apprenant qui a envie de se former à quelque chose. Ça peut être un sportif du dimanche qui a envie de courir un 10 km ou un marathon, et on va l'aider à progresser dans son expérience de course à pied. Et ça peut être aussi dans les entreprises, quelqu'un qui un collaborateur qui a envie de plus vendre, par exemple. Donc il y a vraiment cet aspect protéiforme de l'utilisateur en fonction de son objectif à atteindre. Donc la gamification, c'est un principe ancien. On a tous déjà rencontré, par exemple, les notions de programme de fidélité, où en fait on gagne des points pour obtenir à la fin une rétribution. Les happy hours, on nous dit venez dans un certain endroit, un bar, un pub, à une certaine heure pour obtenir une réduction. Donc ça, c'est une mécanique de rendez-vous. Et puis dans les entreprises, le challenge commercial, c'est une mécanique qui est très connue, qui a aussi fait ses preuves. On va un peu challenger les commerciaux pour essayer d'obtenir plus de performances et donc plus de ventes, tout en apportant un aspect ludique au travail. Donc ça, c'est des principes anciens qui ont toujours montré leur efficacité. Et en fait, ce qu'on va chercher grâce à la technologie, c'est booster cette efficacité. Donc, en fait, c'est un principe ancien qui a été transformé par la technologie. Et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs de la tech, des géants de la tech, qui ont réutilisé ces techniques et qui les ont amenés un peu plus loin. Et ce qui est très intéressant, en fait, en observant ces pratiques du X-Design, en fait, c'est que, en fait, toutes ces entreprises, elles ont des dizaines de millions d'utilisateurs. Et en fait, dans une pratique de design, ça peut être très intéressant d'observer ce qu'elles font, ce qu'elles ont gardé comme technique, parce que en fait, elles sont sans arrêt en train de tester, de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Et en fait, en faisant de l'A/B testing, elles réussissent à identifier des mécaniques qui fonctionnent plus ou moins pour tel ou tel type de cas. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec la gamification, c'est d'identifier les bons leviers d'engagement. Alors, on va étudier un peu les trois ingrédients de l'engagement à long terme. Donc, en fait, pour atteindre un objectif, en fait, il faut un engagement à long terme. Il faut être assidu dans son expérience. Par exemple, si on doit apprendre quelque chose, monter en compétence sur certaines choses, comme par exemple apprendre une nouvelle langue. L'application Duolingo le fait très bien pour passer d'un niveau zéro à un niveau plutôt basique dans une langue. En fait, il n'y a pas de miracle, il faut de l'engagement. Il faut être assidu, il faut revenir sur son application, il faut faire des leçons, faire des exercices. Et en fait, cet engagement, nous, on pense qu'il vient de trois ingrédients. Il y a trois ingrédients pour obtenir de l'engagement à long terme. C'est, premier ingrédient, le sens. Le sens, c'est vraiment la motivation. Qu'est-ce qui me motive à la base pour m'engager dans cette expérience et qu'est-ce qui me motive dans l'objectif que je veux réaliser? Pour Duolingo, par exemple, c'est pourquoi je veux apprendre l'italien. Qu'est-ce qui me motive à apprendre l'italien? Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est la progression. C'est que si je me lance dans l'apprentissage de l'italien, dans cette expérience, dans ce long parcours vers l'apprentissage, il faut que je progresse. J'ai besoin de constater que je progresse et que finalement je suis en réussite. Parce que si je ne progresse pas, si je mets beaucoup d'efforts à apprendre l'italien et que je vois que je stagne à mon niveau, je vais pas être motivé. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient qu'on veut apporter, c'est cette progression un peu quotidienne. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est le call to action. C'est dans ce parcours de progression, à un moment donné, il faut que je casse la routine parce que si ça dure longtemps, plusieurs mois, au bout d'un moment, j'ai besoin d'avoir un peu d'excitation supplémentaire de temps en temps. Et donc, avec ces trois ingrédients, on va réussir à engager à long terme l'utilisateur, quel qu'il soit. Et donc, la gamification vient apporter des éléments de réponse pour chacun de ces ingrédients. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. Donc on va commencer par le sens. Donc c'est le besoin de poursuivre un objectif qui a du sens. Encore une fois, c'est le bénéfice que me rapporte cet objectif. Et finalement, en résumé, c'est pourquoi je veux atteindre un objectif. Donc pour ça, en gamification, on a l'habitude de raisonner avec ce graphe qui est en fait une représentation des motivations profondes que peut avoir un individu à poursuivre un objectif. Donc par exemple, l'accomplisseur, c'est lui qui est en haut à droite. Lui, il a envie d'atteindre des objectifs parce qu'il a un besoin de se dépasser. C'est pour lui-même, il a besoin de se prouver qu'il peut être performant, qu'il peut dépasser ses limites, etc. Ensuite, vous avez le héros. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de participer à quelque chose qui est de l'ordre d'une performance collective. Il a besoin de se sentir utile au sein de ce collectif. Ensuite, vous avez le chasseur, celui qui est en bas à droite. Il a besoin d'être récompensé matériellement. En fait, c'est quelqu'un de plutôt pragmatique qui va chercher la rétribution financière matérielle. Et ensuite, vous avez le tueur. Lui, c'est le compétiteur. Il a besoin de se mesurer aux autres. Et en fait, c'est cette émulation par rapport aux autres qui va entraîner un dépassement de son engagement et de ses performances. Donc ça, c'est les quatre grands types de motivation profonde. Et en fait, on va s'en servir dans notre démarche de design. Donc si je reprends les applications qu'on avait commencé à voir au tout début, donc là, c'est l'application Nike Run Club. C'est une application qui coach les utilisateurs à courir, les coach à la course à pied. Donc par exemple, si mon utilisateur, il a cet objectif, courir un marathon, derrière, il a ses motivations profondes. Pourquoi il veut réussir à courir un marathon? Alors on va regarder typologie par typologie. On a d'abord l'accomplisseur. Lui, il veut se prouver qu'il est capable de courir un marathon, qu'il est capable d'avoir une performance sportive de ce niveau-là. Ensuite, on a le héros. Par exemple, il va peut-être être motivé par le fait de courir pour une association. Ça se fait beaucoup dans le domaine de la course à pied. On voit souvent des courses où on court pour telle ou telle association. Ensuite, le tueur. Le tueur, il va vouloir frimer devant ses amis. Et le chasseur, il va avoir une motivation qui est plutôt pragmatique, matérielle. Et en l'occurrence, ici, c'est il court parce que il sait que c'est bon pour la santé. Donc ça, c'est finalement les quatre grandes motivations sur courir un marathon. Ensuite, on reprend l'exemple de LinkedIn. L'objectif, c'est de participer, d'avoir une présence sur LinkedIn. Et là encore, on peut la décomposer avec les quatre grands types de motivation. Donc l'accomplisseur, par exemple, il veut renforcer son expertise en parlant avec d'autres personnes, en s'informant sur le réseau. Et donc ça va le nourrir en fait sur son expertise. Et c'est pour ça, en tant qu'accomplisseur, qu'il va vouloir s'engager sur ce réseau. Le héros, lui, il va plutôt être dans une démarche de partage, de coopération, où il va vouloir aider les autres personnes qui sont dans son réseau. Le tueur, il va faire ça pour une raison d'image, en fait, pour augmenter tout simplement son influence. Et puis le chasseur, il va vouloir avoir une présence importante sur LinkedIn pour trouver des clients ou un nouvel emploi, par exemple. Dernier exemple, celui de Trailhead. Donc Trailhead, c'est l'académie de Salesforce. Donc c'est une grande académie qui a été mise en place par Salesforce pour former tout son écosystème. Et là encore, les motivations d'un utilisateur de l'académie Salesforce Trailhead, elles peuvent être décomposées selon cette typologie. Donc par exemple, l'accomplisseur, ça va être simplement devenir un meilleur professionnel de Salesforce, quand le chasseur, lui, il va se servir de tout ce qu'il peut prouver à travers son parcours de monter en compétence sur Salesforce Trailhead. Il va essayer d'obtenir une promotion parce que ça viendra certifier que il est devenu un meilleur professionnel de Salesforce. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Et en fait, toutes ces motivations, derrière, on va pouvoir y appliquer des mécaniques de jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mécaniques de jeu pour les tueurs, des mécaniques de jeu pour le héros, pour l'accomplisseur et pour le chasseur. Et donc, avec la gamification, on va venir répondre à chacune de ces grandes motivations à travers justement, le dernier, enfin, l'autre ingrédient qui est la progression. Donc, la progression, je rappelle, c'est de dire que vous pouvez avoir une motivation pour accomplir un objectif, mais derrière, il faut prouver sans arrêt à l'utilisateur qu'il est en train de réussir. Sinon, il va se décourager. Donc quelques exemples de progression, encore une fois, calqués sur les grandes motivations profondes. Donc là, vous avez pour la motivation du compétiteur, du tueur, bien sûr, vous avez le classement. Donc là, c'est un classement, par exemple, qui est utilisé sur Stack Overflow, qui est une communauté en ligne, un forum d'entraide entre développeurs. Et en fait, les développeurs sont classés dans un classement. Et en fait, ceux qui ont le plus aidé, c'est-à-dire qui ont obtenu le plus de points de réputation, vont être en haut du classement. Donc là, pour éviter l'effet où c'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps qui occupent occupent tout le temps les premières places du classement. En fait, il y a quelques astuces de design, comme par exemple, vous allez avoir des classements hebdomadaires, des classements mensuels, etc. Comme ça, chaque nouvel arrivant a des possibilités pour être bien classé dans ce classement. Encore une fois, toujours cette logique de dire, si je suis un compétiteur et que je suis toujours dernier du classement, au bout d'un moment, ça va me décourager. Donc en fait, on fait des périodes pour laisser sa chance à chacun. Donc, le classement, c'est aussi une mécanique, par exemple, que vous pouvez retrouver sur Duolingo. Maintenant, on passe au deuxième type, un deuxième type de motivation, donc qui est l'accomplissement. Et pour ça, on va avoir la mécanique de badge qui est très connue. Donc sur Salesforce Trailhead, vous avez des badges qui viennent symboliser une certaine compétence qui a été acquise. Donc à chaque fois que vous faites des leçons, vous gagnez une compétence et cette compétence, elle est symbolisée par un badge. Donc, en tant que professionnel, vous voulez en fait finalement accumuler des badges pour montrer votre compétence. Ça, c'est une première logique de progression. Et cette logique de progression va même plus loin à travers des sortes de certifications Salesforce. Donc là, vous avez une certification, si on peut appeler ça comme ça, parce que ce n'en est pas vraiment une en réalité, mais en gros, vous avez un super badge. Ou même un super ensemble qui vous permet d'être certifié sur CRM Analytics, sur la grande compétence CRM Analytics. Et donc sur cette grande compétence, vous allez retrouver plusieurs sous-badges qui vont finalement baliser votre parcours de progression et de montée en compétence. Et donc encore une fois, le badge vient simplement symboliser cette montée en compétence et fournir un feedback de progression. Qui renforce la sensation de réussite. Donc vous avez d'autres badges aussi qui sont utilisés sur, par exemple, Google Agriculture, mais là, c'est beaucoup plus dans une logique d'onboarding de l'utilisateur pour l'inciter à découvrir différentes fonctionnalités. Donc, par exemple, si vous utilisez la fonctionnalité Zoom pour zoomer sur un tableau, par exemple, une peinture, ben vous allez débloquer un badge. La coopération, donc levier de coopération, vous avez par exemple les challenges collectifs. Donc ça, c'est utilisé sur Nike Run Club, où plutôt que d'entrer en compétition avec d'autres utilisateurs, avec vos amis par exemple, vous allez participer à un grand challenge collectif et le but, ça sera de courir un certain nombre de kilomètres tous ensemble. C'est-à-dire que dans votre équipe, il faut que vous ayez couru, par exemple, 200 kilomètres dans la semaine. Et enfin, dernier levier, la chasse, donc la récompense matérielle. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans des dynamiques de e-commerce, là où il y a une notion transactionnelle avec les utilisateurs. Donc c'est beaucoup utilisé dans les programmes de fidélité. Et ça, en général, dans un programme de fidélité qui est bien conçu, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que on n'est pas simplement récompensé pour avoir acheté, là, par exemple, 10 cafés chez Starbucks, mais on va monter en niveau et ce niveau va nous apporter des privilèges. Donc par exemple, quand vous êtes au niveau Gold chez Starbucks, vous avez le droit à un shot d'expresso gratuit dans votre boisson, quel que soit le moment où vous y allez. Ce n'est pas simplement une fois tous les 10 achats ou X achats. C'est tout le temps parce que vous avez ce statut client Gold chez Starbucks. Autre manifestation un peu de ces récompenses de chasse matérielle. Sur Stack Overflow et sur d'ailleurs pas mal d'autres forums en ligne, lorsque vous atteignez un certain niveau de réputation, un certain statut sur le forum, vous pouvez avoir des droits de modération ou certains droits qui vous sont conférés. Et notamment sur Stack Overflow, vous avez carrément, au bout d'un certain montant de réputation, d'un certain nombre de points de réputation, vous avez accès carrément aux analytics du site. Donc ça vous donne quand même vraiment un niveau d'information qui est très important pour les meilleurs utilisateurs. Donc voilà, donc ça c'était les exemples de progression dans chaque domaine de motivation. Et ensuite, le dernier ingrédient, c'est le besoin d'incitation à passer à l'action, donc de casser la routine avec les call to action. Et donc là, je vais pas entrer dans les détails, mais en gros, vous pouvez visualiser une expérience de gamification à travers en fait deux éléments. Le premier, c'est l'engagement, et le deuxième, c'est le temps. Donc en fait, une expérience de gamification, c'est différents niveaux d'engagement au cours du temps. Et le but des call to action, c'est que à certains moments de l'expérience, vous allez créer des expériences, des animations, des activités qui vont faire que vous allez augmenter énormément l'engagement à ce moment précis de l'expérience. Donc, typiquement, si on raisonne en interne dans les entreprises, l'engagement maximal pour un service commercial, par exemple, ça peut être un salon professionnel où vous savez que dans ce salon, vous allez vouloir récupérer plein de prospects, éventuellement faire plein de ventes. Et donc ça marque dans l'année du commercial un moment où vous allez avoir un engagement très important. Et donc cet engagement, vous allez peut-être le traduire et essayer de le booster encore plus à travers un challenge. Donc je vais vous partager rapidement ce que pourrait être une expérience dans le domaine de la gamification de la vente. Donc comme d'habitude, on va déjà commencer par identifier les grandes motivations à atteindre un objectif. Donc par exemple, si l'objectif c'est voilà, l'objectif global fixé par l'entreprise, c'est 10% de CA, plus 10% de CA par exemple en 2023, eh ben en tant que commercial, vous allez avoir différentes motivations suivant un peu ce qui vous motive, suivant votre typologie. Donc l'accomplisseur, ça sera peut-être battre son record de vente de l'année dernière. Le héros, c'est aider mon entreprise ou mon équipe à réussir. Le tueur, c'est simplement être le meilleur, être en haut du classement. Et le chasseur, c'est obtenir sa prime. Donc la progression. Ici, c'est très important parce qu'en général, on sait bien que voilà, faire 10% de CA plus 10% de CA, c'est en fait complètement multifactoriel. Ça dépend de plein de sous-objectifs comme le nombre de rendez-vous clients, le nombre de contacts ajoutés dans le CRM, le nombre d'opportunités, les leads créés, etc., etc. Donc, c'est là que la notion de progression est super importante parce qu'en fait, via la gamification, vous allez donner des feedbacks de progression sur chacun de ces sous-objectifs. Donc, comme je le disais, votre année, elle va peut-être être rythmée par des grands événements avec des challenges. Donc, par exemple, un challenge spécialisé sur les opportunités, un challenge spécialisé sur la data quality que vous allez avoir dans le CRM, etc. Donc, ça, c'est un peu votre première brique. Et ensuite, vous allez accompagner sur différents sous-objectifs. Donc, vous pouvez utiliser la logique de badge, par exemple, pour le nombre de contacts ajoutés dans le CRM. Et donc, petit à petit, en tant que commercial, vous allez voir progresser cet indicateur. Donc, vous allez avoir un badge networker niveau 1 pour avoir ajouté 10 contacts, networker niveau 2 pour avoir ajouté 50 contacts, etc., etc. Vous pouvez avoir la même logique pour la prospection, le nombre d'appels de prospection, mais là, vous pouvez ajouter de la diversité et, par exemple, avoir une approche plus compétitive. Donc là, vous avez un badge, appel de prospection, vous avez terminé à la première place. Donc là, c'est plus un badge pour les compétiteurs. Et puis, pour le nombre d'opportunités créées dans le CRM, vous pouvez avoir un badge, cette fois-ci plus collectif, pour appuyer sur le levier du héros, avec 1 000 opportunités créées dans le CRM, un badge opportunité, mais collectif. Et donc, cette progression, elle va aussi s'accompagner d'une montée en niveau pour chaque collaborateur. Donc, on monte à travers des niveaux parce que, de manière générale, on a progressé dans tous les sous-objectifs. Et puis, bien sûr, ce qui va être très important aussi dans la gamification. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé par toutes les applications B2C qu'on retrouve sur les stores. C'est le récapitulatif qui peut être hebdomadaire, qui peut être mensuel et qui vient vous coacher et vous accompagner en vous envoyant simplement un petit récap de votre avancement dans le système de gamification. Donc, où vous en êtes dans vos badges, où vous en êtes dans votre niveau, qu'est-ce qui vous reste à faire pour monter au niveau suivant, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette notion d'accompagnement à travers des notifications. Voilà, donc en résumé, si on doit résumer la gamification, c'est aider un utilisateur à atteindre un objectif avec, en prenant en compte ses motivations profondes et donc d'une part, en premier, bien comprendre l'utilisateur et deuxièmement, proposer à cet utilisateur des feedbacks pour lui montrer que finalement, jour après jour, il est en train de progresser et il est en train de réussir dans l'atteinte de son objectif. Voilà. Je vous remercie. Donc.
On va passer à la présentation d'Adrien et Gaël et après on fera une petite présentation d'Objo et des questions.
Ouais, ça marche. Super.
Adrien, la scène est à toi.
Merci. Je vais vous partager rapidement un retour d'expérience que je vais pouvoir vous faire au nom de Cyberludique. Et je voulais vous présenter une initiative qui s'inscrit en fait parfaitement dans les mécaniques qui ont été présentées, qui était notamment de pouvoir amener les collaborateurs, amener les participants à casser un petit peu cette routine, à les faire passer par différentes étapes. Et vous avez sûrement déjà vécu la difficulté, notamment si vous avez l'habitude de sensibiliser, la difficulté à pouvoir intéresser les gens quand ils ont déjà eu ce canal-là, cet outil-là de sensibilisation, quand ils ont déjà subi des PowerPoints divers et variés, quand ils ont déjà subi des vidéos diverses et variées. Et effectivement, l'approche par le jeu en est une autre. Et celle-ci, elle a quand même pas mal d'avantages. C'est ça qui nous a amené, alors c'est un projet, comme beaucoup de projets, hein, qui est né pendant le premier confinement, hein, pour être tout à fait transparent sur sur la démarche. Et ce qu'on a fait, c'est un jeu de société qui va en fait intégrer toutes les composantes, là en l'occurrence du RGPD, et pour d'autres versions qui sont en cours de production, qu'on peut vous annoncer, sur ISO 27001 ou d'autres, sur des référentiels ou des normes. Et on a mis en application ce principe de progression avec, vous voyez, un jeu plateau avec des mécaniques relativement simples. On a basculé dans les règles l'ensemble, là en l'occurrence, du RGPD, des principes de cybersécurité, et on a tenu compte du contexte qui est à la fois le contexte des entreprises, des collectivités territoriales, donc ce qu'on retrouve comme activités qui sont dans nos cartes traitement, et l'ensemble, enfin l'ensemble. Les événements les plus caractéristiques, qui sont les plus habituels, qu'on rencontrera en situation de non-conformité ou en cas d'incident. Et en fait, avec cette approche, ça a permis de faire autrement que du cours magistral, que du descendant, et ça a permis à ceux qui ont joué de pouvoir s'approprier, et ça pour moi, c'est une victoire majeure déjà, rien que pour ça. Ça a permis de s'approprier ne serait-ce que les termes. C'est-à-dire que les gens finissent par comprendre ce que signifient les termes, qui sont en fait les règles du jeu. Quand on parle, quand je vous prends l'exemple du RGPD, quand on parle de registre de traitement, quand on parle de violation de données, eh bien, ils se sont appropriés les mots propres au RGPD. Quand on parle d'événements, avec des conséquences, avec des mesures de sécurité à mettre en œuvre, ils les comprennent. Et ils comprennent qu'on ne peut pas toutes les mettre en même temps. Donc, ils comprennent également qu'en entreprise, cette notion de priorisation et cette notion de travail collectif est importante. Ça va également chercher d'autres aspects qui ne sont pas forcément visibles quand on fait du cours magistral, quand on fait des vidéos. C'est que ça va favoriser la cohésion d'équipe. On a eu, à chaque fois qu'on l'a joué, quand on le joue en mode binôme. Donc on met en binôme des gens qui ne sont pas forcément collègues et on se retrouve avec une coopération et un esprit d'équipe qui se développe. Donc ça, pareil, ça a été un effet super intéressant quand on l'a joué. Et enfin, ça a permis, alors je vous passe l'aspect motivation, hein, qui forcément, tout le monde a envie d'aller jouer par rapport à aller faire un cours magistral d'une heure sur la cyber, hein. Mais typiquement, ça a permis également de développer cette logique. Quand on parle de sensibilisation, on parle de changer des comportements. On ne fait pas monter en compétence les gens, hein, ce n'est pas l'objet. On veut qu'ils changent de comportement, et typiquement, grâce à ça, on a réussi à les emmener vers un changement de comportement. Et on a pu le tester avec différents cadres. Là, il y en a un qu'on a pu rendre public avec des étudiants à l'Université Lyon 1, où en fait, on a obtenu une augmentation de 10% en fait, d'appropriation des concepts. Et on l'a testé avant et après en fait, avec des QCM et des, avec en gros une mécanique d'évaluation qui était conçue pour ça. On a testé avant, on a testé après. Et en fait, ça leur a permis de s'approprier réellement les concepts. Alors, ce n'était pas devenu des experts, hein, on est d'accord. Mais en ce qui concerne la compréhension et l'impact de chacun des sujets, ça a été relativement... ça a été significatif, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la partie sensibilisation par le jeu, avec l'exemple qu'on a ici avec Cyberludic. Cyberludic, pour en faire trois mots, hein, je vous ai dit, ça fait 3 ans que ça existe. On développe des jeux plateau, qui sont, on développe ça à Lyon, c'est la société dans laquelle je fais partie, qui est lyonnaise. Et dans ces jeux plateau, on a la capacité à pouvoir intégrer un certain nombre de thèmes. Donc là, on a pris l'exemple du RGPD, de la cyber. Il y en a un, je vous ai dit, sur les normes ISO qui arrivent. Il y en a d'autres qui sont encore dans les cartons. Pour info, si certains d'entre vous souhaitent peut-être voir en situation, on sera au FIC, donc vous pourrez, si vous y passez, tout à fait venir boire un café et comprendre un petit peu cette mécanique de jeu, comment fonctionnent les pions, etc. Voilà. C'est sur la partie gamification, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que je me suis focalisé sur le jeu, mais pour vous dire, et vous retrouverez toutes les infos sur le site internet, on a également fait un manga sur la cybersécurité, qui est plus facile à déployer, parce que vous êtes sur un format lecture qui est plus simple. Alors là, il y a moins de collaboration, hein, on est d'accord. Mais c'est un outil qu'on a utilisé avec des MJC, avec un certain nombre de publics, dans un lycée il y a une semaine. Et ça, pareil, ça a créé un engagement qu'il n'y avait pas, parce qu'on avait un support atypique. On repart avec un support assez qualitatif. Et voilà en tout cas les approches dont je pouvais vous parler et qui, on l'a testé, hein, c'était une volonté, ont quand même amené. Et ça se vérifie mathématiquement, l'échantillon n'est pas énorme, mais on a eu 10% quand même d'appropriation supplémentaire sur tous les sujets, donc c'est toujours ça de prix, quoi.
Super, merci.
Voilà.
Bonjour à tous et à toutes. Chiroudo, donc c'est un peu, on est un peu dans la même veine qu'Adrien. La logique, c'est que nous, on est spécialisés dans tout ce qui est sensibilisation et formation cyber. Et on a développé une alternative au e-learning à travers un serious game. Et il ne faut pas se leurrer, la logique de gamification chez nous, c'est vraiment la logique d'utiliser le jeu comme un artifice pour aider à la formation avec un certain nombre de leviers qu'évoquait Clément tout à l'heure, notamment puisqu'on s'adresse principalement aux utilisateurs finaux de mon spécialiste. Donc, c'est une thématique qui est complexe pour eux, qui ne les intéresse pas. Et aujourd'hui, il faut réussir à les motiver, sachant que le risque cyber est très large. Et dès lors que le risque cyber est très large, il faut trouver tous les mécanismes qui vont nous permettre d'intéresser, d'engager, comme le disait Clément tout à l'heure, les utilisateurs à se former tout au long de l'année. Adrien expliquait que c'était une évolution des pratiques. C'est vrai que nous, on est sur plus une approche de changement et de bonnes pratiques à acquérir et d'acculturation sur sur la question de la cybersécurité. Et donc, c'est un fonctionnement en micro-session, mais tout au long de l'année. Et aujourd'hui, la gamification, ce dont on s'aperçoit, entre autres, c'est que ça permet de faire venir des publics assez éloignés de ces thématiques-là sur le sujet de la cyber, avec des objectifs, des récompenses, si je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, puisqu'il y a une progression, et c'est vraiment cette logique de progressivité pour que les utilisateurs s'approprient le sujet, mais finalement, de se dire, Je me forme sur cette thématique, ça effectivement dans le cadre de mon activité professionnelle, mais ça a aussi un impact sur mes pratiques personnelles. Et ce double approche par le jeu, où ils vont être acteurs, puisque tout au long des missions, ils vont être amenés à interagir. C'est eux qui ont la main avec des différents parcours en fonction de leur choix. Ces éléments-là permettent à un moment de valoriser et d'adresser des thématiques assez spécifiques. Donc, nous, c'est vraiment sur la cybersécurité. L'approche pédagogique est en trois étapes, qui est de dire la première, on vous présente ce qu'est le risque. La deuxième, on vous confronte au risque, donc vous allez devoir analyser et intervenir sur ce risque-là. Et la troisième, qui est, on va vous interroger, mais dans un cadre qui n'a rien à voir avec le sujet qui nous occupe. Et en termes de récompense, par rapport à ce que disait Clément, on donne l'opportunité à chacun de nos utilisateurs d'évaluer la qualité du parcours qu'ils viennent de faire et de la commenter. Et aujourd'hui, on sait que sur ces évaluations-là, on est à un niveau de 3,6 sur 4 sur un grand nombre d'utilisateurs, ce qui veut dire qu'il y a aussi une vraie appropriation de la méthode d'apprentissage. Voilà globalement ce que je pouvais dire sur la gamification. Sachez qu'aujourd'hui, cette solution elle est déployée sur tout type d'entreprise, dans plusieurs pays, plus d'une vingtaine de pays, et qu'on s'aperçoit que finalement, c'est des questions qu'on nous pose, les cultures de chaque pays ou les cultures d'entreprise influent assez peu sur l'appropriation et l'acceptation de ce type de support de promotion et de valorisation et de formation, sensibilisation au risque cyber.
Peut-être Clément, nous donner un peu plus d'infos sur FireTiger aussi, on en profite. Le deuxième projet, pardon, labellisé Innovateur.
Ok, bon, je vais faire vite. Bon, alors, déjà, la première info, c'est qu'on a changé de nom. on s'appelle Objo. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour passer un petit message. Donc, jeudi prochain, donc jeudi 30, on fête justement ce changement d'identité au Hub 612 à Lyon avec une conférence sur la gamification. Et ça sera aussi l'occasion de fêter la sortie de mon deuxième livre sur le sujet. Donc, ça sera à la fois une présentation du livre et puis une fête pour le changement d'identité. Donc voilà, si vous êtes lyonnais et dans le coin, avec plaisir pour se voir au Hub 612 jeudi prochain. Alors donc Objo, c'est donc une solution logicielle dont le but est de faire passer l'animation des équipes au niveau supérieur. C'est vraiment une solution donc qui utilise la gamification et qui a pour objectif de stimuler l'engagement des équipes. Donc aujourd'hui, on a 10 000 utilisateurs actifs en interne dans les entreprises, mais aussi dans les réseaux de distribution, en réseau de distribution, avec des références plutôt dans le domaine de la banque assurance, de l'agroalimentaire et puis du recrutement. C'est nos trois principaux secteurs pour le moment. Et donc en fait, Objo a été créé d'une part pour essayer de renforcer les leviers de motivation qui étaient disponibles pour les entreprises, donc essayer d'apporter autre chose que simplement de la rétribution financière, essayer de motiver avec d'autres leviers, essayer de fournir aux managers une solution vraiment pour apporter un feedback au quotidien à leurs collaborateurs. Et puis aussi une solution qui permette d'animer au quotidien et de manière non chronophage. Donc on repose sur l'ensemble des leviers de motivation. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu pendant la conférence. L'idée, c'est pas seulement d'utiliser les leviers primes, cadeaux, compétition, mais aussi d'aller chercher de la coopération, du dépassement de soi, etc. Donc c'est une solution, web et mobile. On a des applications et en fait notre objectif, c'est vraiment de venir connecter les data des entreprises qui sont sur différents outils CRM, ERP, même éventuellement les réseaux sociaux, pour en fait avoir de la data qui nous permette ensuite d'animer les objectifs de performance opérationnelle. Donc par exemple, le CRM, on va animer les ventes en récupérant les data sur le CRM. Et donc pour animer, on va avoir plein de fonctionnalités et notamment bah, finalement tout ce dont on a parlé pendant la conférence, les logiques de gamification, les badges, les challenges, la capacité aussi à fournir des récompenses matérielles à travers une marketplace. Et finalement, notre enjeu, voilà, c'est de scénariser, comme je vous l'ai montré, l'expérience du collaborateur au cours du temps.